On va se courber ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, je veux te remercier pour la journée d'hier, Seigneur, avec tous ces invités qui sont venus pour recevoir des cadeaux, mais pour qu'on puisse aussi les aimer en ton nom, Seigneur, et parler de toi, parler du vrai sens de Noël. Je te remercie pour tous ceux qui ont accepté notre invitation pour ce matin, qui s'en viennent déjeuner, qui vont être reçus avec honneur, qui vont être bien servis. Et Seigneur, je te prie que toute cette matinée puisse te glorifier en toutes choses, dans ce cours et tout à l'heure dans le service spécial pour Noël, Seigneur. Mets ta main sur chacun des détails. Vraiment, nous voulons élever le nom de Christ, ton saint nom, aujourd'hui. Et en assemblée, en église et devant nos invités, Seigneur, mettre en valeur le véritable sens de cette fête, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, nous sommes dans le cours Survol de la Bible, à la leçon 14, Survol du livre de l'Ecclésiaste. Je voulais vous remercier premièrement pour toutes les personnes qui ont rempli le petit formulaire d'évaluation. C'est éclairant pour moi. Merci pour les bons commentaires, bien sûr. Mais aussi, vous avez mentionné certaines choses que vous auriez aimé avoir davantage. D'abord, que ce soit un petit peu moins rapide. Et puis, qu'on puisse avoir un petit peu plus d'espace pour les échanges ensemble. Et à la lumière de ça, mais j'étais déjà en train d'y réfléchir avant, j'ai décidé que j'allais faire juste le survol de l'Ancien Testament jusqu'à l'été prochain. Puis en septembre, je vais faire le survol du Nouveau. Une des raisons pour ça, c'est que tout le mois de janvier est consacré à la prière. Alors, c'est notre dernier cours ici avant février, parce qu'on prend deux dimanches de pause. Puis après ça, on fait 4 semaines de prière de 9 à 10. Et le mois de juin est consacré à la prière aussi. Donc, on va avoir février, mars, avril et mai pour terminer le survol de l'Ancien Testament. Ça va me permettre vraiment d'aller livre par livre plutôt que parfois faire 2 livres le même dimanche. D'accord? Et je vais essayer d'être sensible justement aux commentaires que vous avez faits, peut-être un petit peu plus d'application, de réflexion au niveau de l'application et un peu plus de place pour les échanges aussi. On va essayer de s'ajuster un petit peu sur ça. Par contre, ce matin, c'est ça, il me reste 40 minutes, exceptionnellement. Alors, on arrive pratiquement à la fin de la section des livres de sagesse, d'accord? C'est-à-dire qu'il va nous rester le Cantique des Cantiques, qui fait partie des livres poétiques, des livres de sagesse, ouais, OK? Généralement, il est classé dans cette section-là. Alors, lorsqu'on va revenir en début février, on va voir ensemble le Cantique des Cantiques. Je suis certain que c'est un livre qui en intrigue plusieurs par son sens, simplement dans les Écritures. Et puis, après ça, on va rentrer dans la section des livres prophétiques. Ces deux livres-là, celui qu'on voit ce matin et le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, c'est probablement deux des livres les plus difficiles à comprendre pour plusieurs. Je dis pas pour tout le monde, mais pour plusieurs. Parce que, bon, évidemment, le Cantique des Cantiques, on peut se poser la question dans une première lecture, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Puisqu'il n'y a pas beaucoup de leçons à l'égard de Dieu clairement explicites, comment est-ce qu'on doit se comporter dans notre piété. C'est vraiment une histoire d'amour qu'on a dans le Cantique des Cantiques. Maintenant, moi, je bénis Dieu qu'il l'a mis dans la Bible, définitivement. On verra ça ensemble. Mais dans le cas de l'Ecclésiaste, la raison pour laquelle on peut se poser des questions, c'est que dans une première lecture, si on fait juste le lire vite comme ça, quelle est l'impression qu'on peut avoir? J'aimerais ça vous entendre. Quelle est l'impression qu'on peut avoir qui peut être étrange en lisant ce livre-là une première fois ou des fois hors contexte? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Quelles sont les impressions étranges qu'on peut avoir avec l'Ecclésiaste? Je m'excuse, je fais un petit ajustement en même temps, là. Voilà. Quelqu'un? Oui. Oui, alors on peut avoir tout simplement l'impression que la vie ne vaut rien. C'est très bien dit, Serge. Alors, on peut avoir l'impression que la vie ne vaut absolument rien, puisque l'auteur passe son temps à répéter quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut commenter là-dessus? Serge l'a assez bien résumé. Si on lit l'Ecclésiaste, sans saisir le sens profond du livre, si on le lit peut-être un peu rapidement en accrochant justement sur un certain nombre de déclarations, on peut avoir l'impression que ce livre-là est en contradiction même avec la Bible. Parce qu'on peut avoir l'impression que le livre est en train de nous dire que la vie ne fait aucun sens et ne vaut pas la peine d'être vécue. D'accord? Ce qu'il ne dit pas. Mais on peut avoir cette impression-là en effet. Est-ce qu'il y en a qui ont eu cette impression-là les premières fois que vous avez lu le livre? Vous avez été comme troublé un peu par ça. Merci, mesdames, d'être honnêtes. Il y a au moins deux personnes honnêtes dans cette classe. Je suis content. Ça serait normal d'avoir cette impression-là dans une première lecture. Alors, quelques éléments d'introduction. Si on essaie de résumer le thème, et puis déjà on va replacer ça un petit peu dans son contexte global, on pourrait le résumer comme ça. Le vrai bonheur ne peut être trouvé dans la poursuite des richesses et des idées de ce monde, mais nous pouvons l'obtenir seulement lorsque nous vivons dans la crainte de Dieu. D'accord? Lorsqu'on le place dans son ensemble, je pense qu'il y a un élément qui n'est pas mentionné ici, qui est là, c'est que puisque la vie a un aspect vain, puisqu'elle n'est pas éternelle, nous devons aussi en jouir quotidiennement et apprécier chaque moment. Je pense que c'est un des éléments qui est présent. Mais je relis le thème ici, « Le vrai bonheur ne peut être trouvé dans la poursuite des richesses et des idées de ce monde. Nous pouvons l'obtenir seulement lorsque nous vivons dans la crainte de Dieu. » Qui est vers la conclusion, en fin de compte, du livre. Date de rédaction, puisque le livre est généralement attribué à Salomon, il n'est pas explicitement mentionné, mais comme on va voir, il y a des indices quand même assez probants. Puisqu'il est généralement attribué à Salomon, bien on situe ce livre-là, sa rédaction, autour de 930 avant Jésus-Christ. D'accord? Les indices qu'on a, bien écoutez, le livre commence en disant « fils de David ». L'auteur se présente comme étant « fils de David, roi d'Israël ». Alors, il y a juste un fils de David qui a été roi d'Israël. Donc, les probabilités sont assez élevées. Maintenant, aussi évidemment, par le fait que l'auteur a poursuivi la sagesse, Salomon est l'homme qui a eu plus de sagesse que tout homme. Salomon a écrit un grand nombre de sentences, de proverbes, ce qui est mentionné aussi pour l'auteur ici. Et généralement, la tradition juive, les écrits juifs qui sont pas dans la Bible, toutes sortes de commentaires bibliques qu'on a écrits par des rabbins, généralement, la tradition juive reconnaît simplement l'Ecclésiaste, Salomon comme étant l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Alors, ça lui est généralement attribué. Si on regarde rapidement la structure ensemble avant d'entrer dans la matière même, je vais juste mentionner les cinq points principaux. La vie comme un don de Dieu. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu sur la vie. Troisièmement, l'insatisfaction dans les biens et les trésors de cette vie. Quatrièmement, Dieu démontrera sa justice. Et cinquièmement, vivre à la lumière de l'éternité. D'accord? Si on veut essayer de se donner cinq sections, il y a cette idée qu'on est appelé à jouir de la vie parce que c'est un don de Dieu, on va le voir ensemble. Dieu est souverain sur toutes choses et donc on doit marcher en perspective de la souveraineté de Dieu. Il y a une profonde insatisfaction tout de même dans cette vie, à travers les trésors de cette vie. Je viens à toi, Suzy, ce ne sera pas long. Donc, il y a une profonde insatisfaction quand même dans les biens et les trésors de cette vie. Dieu, en définitive, va démontrer sa justice parce qu'il est question dans le livre de l'Ecclésiaste aussi des injustices criantes qu'il y a dans le monde. Et puis, nous sommes appelés, en considérant tout cela, à vivre en perspective de l'éternité. Oui, Suzy. La question de Suzy, c'est est-ce qu'on a des indices clairs à quel moment de sa vie Salomon l'aurait écrit? Non, on n'a pas d'indices clairs à savoir quand est-ce qu'il l'a écrit. Parce qu'effectivement, si tu lis juste l'Ecclésiaste, tu te dis ce gars-là a terminé près de Dieu. Maintenant, les informations historiques qu'on a sur la fin de la vie de Salomon ne semblent pas aller dans ce sens-là vraiment. Fait que c'est difficile à situer. C'est difficile à situer. J'ai jamais lu aucun commentaire qui osait essayer là, de le situer de manière précise. Donc ça, c'est un espèce de plan global qu'on peut se donner pour saisir ce récit-là. C'est utile parce que le livre de l'Ecclésiaste fait quand même partie des livres de sagesse. Et donc, on n'a pas un texte linéaire. Il y a des moments où il semble partir sur une bulle. Ça donne l'impression que le livre a été écrit comme la conclusion de beaucoup de réflexions. Puis il a décidé de rassembler ça, d'accord? Et donc, suivre un fil conducteur constant, bien, bien précis, bien soutenu tout au long du livre, c'est pas toujours évident. T'as vraiment l'impression des fois que, oups, OK, il fait une grosse parenthèse de sagesse, puis là, il part dans une direction, puis là, on continue, d'accord? Alors, c'est utile d'avoir ces sections-là. Le défi. Le défi pour interpréter le livre de l'Ecclésiaste. Selon moi, c'est impossible de bien comprendre ce livre-là si je perds de vue la fin du livre. D'accord? À tout moment, quand je vais essayer de comprendre le livre de l'Ecclésiaste, Je dois garder à l'esprit la fin du livre. Je vais demander à Stéphane, juste pour le fun, qu'est-ce qui fait que tu aimes ce livre-là? Parce que Stéphane aime énormément ce livre-là. Par rapport à la vanité de la vie. L'évidence.
La vanité de la vie sans Christ, encore plus. Parce qu'il faut dire que Paul, dans ses écrits, vient contredire ça, parce que dans le Seigneur, c'est pas vain. Mais sans le Seigneur, c'est vain. Alors, la vie sans Dieu, là, c'est, ça donne rien. C'est juste en Christ qu'il y a un sens.
OK. Alors, Stéphane aime ça tout simplement parce que c'est un gars très, très lucide qui a écrit ce livre-là puis qui voit que la vie sans Christ est vaine. Effectivement. Je vais rajouter quelques éléments à ça, d'accord? Alors, évidemment, la difficulté avec ce livre-là, c'est ces déclarations qui peuvent sembler contradictoires avec l'ensemble des Écritures. Si Dieu est le créateur de la vie, dire que la vie est vaine, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que ça respecte Dieu? Donc, on peut avoir l'impression, justement, qu'il dit que la vie ne vaut rien, comme l'a dit Serge. Et si je ne me rends pas à la fin du livre, si à tout moment, quand je suis en train de lire le livre, je perds de vue la fin du livre, bien, ça se peut que je reste avec une idée qui n'est pas tout à fait juste par rapport à l'ensemble des Écritures. D'accord? En même temps, je dirais que la puissance de ce livre-là, c'est de créer chez nous la réflexion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé de la poésie, une des forces de la poésie, c'est que lorsqu'on utilise le langage poétique, pas juste dans les Écritures, tout le temps, la poésie, lorsqu'on utilise la poésie n'est pas là pour te donner des informations précises, elle est là pour élargir un champ de réflexion. D'accord? Elle va dans le domaine des émotions, elle prend des idées qui ne sont pas très précises, souvent c'est des métaphores, ce sont des images, et donc c'est là pour créer plus un état d'esprit avec des pistes. C'est à ça que ça sent la poésie dans les livres de sagesse encore plus. Donc, elle est là pour créer un état d'âme, faire une constatation. Les conclusions ne sont pas très précises. On n'est pas dans un écrit de Paul ici, là, un écrit chirurgical avec vraiment toutes les conséquences logiques, tout ça. Et elle ouvre des pistes de réflexion, d'accord? Et c'est une des forces de ce livre-là, c'est que je peux le lire et à tout moment m'arrêter puis dire « Mais coudonc, c'est vrai ». C'est vrai. Je dois aller jusqu'au bout du livre si ma pensée veut être saine, si elle veut être balancée avec la pensée de Dieu. Mais je vous dirais que c'est un livre extraordinaire pour amener quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus à réfléchir sur la vie. D'accord? Jean-Paul Sartre, c'est l'Ecclésiaste moins la conclusion. Ceux qui ont lu Sartre, ceux qui connaissaient Sartre, d'accord? Son concept de l'absurde. Dans son système, dans sa vision du monde, la vie n'a aucun sens. On vit dans l'absurdité, puisqu'il était un matérialiste profond, et donc il croyait qu'il n'y a rien qui se passe après, il n'y a pas d'éternité, et donc il constate comme l'Ecclésiaste, toutes les conclusions de l'Ecclésiaste, sans l'espérance d'un Dieu qui jette son regard sur nous. Alors, pour Sartre, la vie était absurde, et la fin de sa vie a été très, très, très conséquente. Bon, il s'est enlevé la vie à la fin de ses jours, d'accord? Puisque la vie faisait aucun sens. Donc, c'est un outil intéressant pour amener quelqu'un qui ne connaît pas Christ à réfléchir, à se poser des questions, puis à s'arrêter à un moment donné, puis à dire, ben c'est vrai. Bon, tu t'espères qu'il va aller jusqu'à la fin, d'accord? Pour pas qu'il termine sa vie comme Sartre, mais qu'il va justement prendre une autre perspective. Je pense qu'un des éléments qui est important à garder en vue aussi, c'est que on veut non seulement lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, le lire en gardant la fin de l'Ecclésiaste en perspective, mais ce livre-là n'a pas été inspiré de Dieu pour exister par lui-même à l'extérieur du canon des Écritures. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. D'abord, ce livre-là fait pas beaucoup de sens si j'ai pas l'ensemble de la révélation. La crainte de l'Éternel se comprend lorsque je commence avec la Genèse, puis que je découvre qui est l'Éternel, je découvre qui est Dieu, d'accord? Et donc, si je lis l'Ecclésiaste, je dois lire en ayant à l'esprit la conclusion. La conclusion étant, là, s'il y en a qui ne sont pas, vous n'êtes pas mis à jour avec l'Ecclésiaste, de marcher dans la crainte de l'Éternel, d'accord? Il fait du sens si je le lis en ayant en tête la conclusion du livre, mais il fait encore plus de sens si je le situe à l'intérieur de l'ensemble des Écritures. Parce que là, il y a un autre élément qui vient s'ajouter puis qui nous aide à comprendre la lecture que l'Ecclésiaste fait de la vie et que plein de gens font de la vie, c'est qu'on vit dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde déchu qui a été entaché par le péché. Nous sommes tous fils et filles d'Adam. Et donc, il y a une espèce de non-sens. Il y a à l'intérieur de nous une aspiration à plus que ce que cette vie-là peut nous offrir. Je ne parle pas des plaisirs. Cette vie-là peut nous offrir énormément de plaisirs. Mais une fois que tu as fait le tour de tous les plaisirs, comme le dit très bien l'Ecclésiaste, ton âme veut plus que ça, elle désire plus que ça. On a été créés pour plus que ça. Et cette vie-là, ici-bas, sans Christ toujours, cette vie-là, ici-bas, ne peut pas nous offrir ça. Elle ne peut pas nous donner ça. Parce que nous vivons, après la chute d'Adam, la chute d'Ève, notre chute à tous, donc ça a deux implications majeures. Premièrement, nous allons tous mourir. Alors, le temps existe avec son compte à rebours qui court contre nous constamment. Et ça, l'Ecclésiaste réfléchit beaucoup à ça. Et deuxièmement, nous sommes tous pécheurs. Et donc, on vit dans un monde où l'injustice, le mal est toujours très présent. Et ça crée un non-sens dans notre esprit parce qu'on aspirait à vivre dans un monde où les choses vont bien, où les gens s'aiment, où les gens prennent soin les uns des autres. D'accord? Donc, je pense que pour bien comprendre le livre de l'Ecclésiaste, il faut le lire jusqu'à la fin et il faut le placer dans le contexte biblique. Dans le contexte biblique, lorsque je comprends bien l'univers avec les yeux de Dieu puis avec les yeux de la Bible, bien, je regarde la vie puis je dis « vanité des vanités, tout est vanité ». Parce que tu peux construire ta vie, mettre des enfants au monde, puis il y a un sombre fou qui va rentrer dans l'école de tes enfants un beau matin, juste avant Noël, qui va venir donner un nouveau sens à Noël jusqu'à la fin de tes jours, parce qu'il est rentré là-dedans avec une arme à feu. D'accord? Toi, tu construisais la vie. Dieu donne la vie. Je fais des enfants, je bâtis un foyer, on essaie de s'installer pour jouir de la vie. Puis il y a un sombre crétin qui rentre dans l'école, qui tue une vingtaine d'enfants. Et voilà, Noël vient de changer de sens pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Vanité des vanités. Ça m'a servi à quoi d'avoir une famille? Ça m'a servi à quoi d'avoir des enfants? Ça sert à quoi de vivre si c'est ça que ça donne? De toute façon, ils sont morts, je suis aussi bien d'aller les rejoindre. Moi, je vais mourir aussi un jour. Voyez-vous? On vit dans un monde déchu. Et cette perspective-là, cette réalité-là est toujours présente, elle est toujours là. Donc, pour bien le comprendre, il faut le placer dans ce contexte-là, puis ça va nous amener après à le placer dans le contexte de la révélation de Noël, la venue de Jésus-Christ. Mais ça, on y vient un petit peu plus loin. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est vraiment un sujet super, Pépé, hein, veille d'honneur. À vous des questions jusqu'ici. Ça va, c'est bon? Commentaire? OK. Alors, évidemment, je fais un petit commentaire au milieu de la page 3. C'est donc dans ce contexte que nous devons lire le livre de l'Ecclésiaste qui nous pousse à espérer le retour de notre Sauveur pour le jour où il créera un monde nouveau qui ne sera pas entaché par cette vanité qui vient de vivre dans un monde déchu où la mort nous attend et où le péché est omniprésent dans notre vie et dans la vie des gens autour de nous. On va regarder, on va rentrer dans la matière ensemble, puis on va aller voir des passages importants, d'accord? Alors, Ecclésiaste 1, versets 2 et 3, vous pouvez ouvrir vos Bibles, on va lire plusieurs passages. Certains vont être affichés, d'autres non. Ecclésiaste 1, versets 2 et 3. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors, le livre commence avec une question existentielle que tous les êtres humains se posent, ou à peu près un jour. Généralement, on commence à se la poser à l'adolescence. Et des fois, ça va même en préadolescence. Des fois, des enfants vont se poser ces questions-là. C'est très lourd dans un cœur d'enfant, mais ça arrive que les enfants se posent ces questions-là. Et pourquoi est-ce qu'ils se posent cette question-là? Bien, au verset 4, il dit « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Donc, premièrement, sa question, son questionnement, vient du fait que tout ce qu'on construit est temporaire. Tout ce qu'on acquiert est temporaire, que ce soit des connaissances, que ce soit des compétences, que ce soit des biens matériels, que ce soit bâtir un foyer, que ce soit avoir des enfants. On fait tout cela dans une perspective temporaire. Et il dit, à cause de ça, ça fait aucun sens. Puis après, dans le livre, il va aller tirer les conclusions logiques de ça. Parce que là, ça a des implications. Si une génération vient, une génération part, Mais qu'est-ce que la prochaine génération va faire de tout ce que tu as essayé de construire? Est-ce qu'ils vont l'honorer? Est-ce qu'ils vont le perdre? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Alors, ça a plein de ramifications. Il va pousser cette réflexion-là plus loin encore. Mais le livre commence avec cette question-là. À quoi ça sert de vivre? Quel sens a notre vie si une génération vient, une génération meurt, puis la terre subsiste, on est juste là pour un temps? Et c'est ça qui le pousse dans toute cette réflexion dans laquelle il va se lancer. En considérant le cycle de la vie, il constate que la génération présente disparaîtra, laissera sa place à une autre génération qui, elle, disparaîtra à son tour, un jour pour laisser sa place à une autre. En fait, le sort de l'humain est le même pour tous. Que restera-t-il après cette vie? Regardons ensemble le verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alors, l'être humain essaie de donner un sens à sa vie en disant, voici, je vais laisser une trace derrière moi. Et si on considère là, juste comment depuis 2-3 siècles au moins, comment les gens réfléchissent, ceux qui ont le mieux réussi leur vie, d'accord? Là, je parle dans la pensée populaire, je ne dis pas lorsqu'on prend le temps de bien réfléchir, mais dans la pensée populaire, et c'est là comme une aspiration de chacun, ceux qui ont bien réussi leur vie, c'est ceux qui ont marqué suffisamment l'histoire pour qu'on se rappelle d'eux 300-400 ans au moins. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est généralement ça. Et il va y avoir plein de gens, je veux dire, chacun d'entre nous, on y a au moins rêvé d'une manière quelconque, si je pouvais être quelqu'un, tu sais, puis laisser ma marque à quelque part, ça ferait une différence. Et une des grandes tristesses qu'on a, c'est de se dire, oui, mais non, je suis juste un quelconque plutôt qu'être quelqu'un. Et puis, 2 générations après, on ne se rappellera même pas de moi. Mes enfants vont penser à moi, mes petits-enfants, si je les ai gâtés, vont penser à moi, puis après ça va s'arrêter là. D'accord? Et c'est vraiment ça qui suscite cette réflexion-là en lui. Et réfléchir à ces questions-là peut et amène toutes sortes de questionnements profonds, souvent très, très troublants. Il l'exprime très bien au verset 17-18, Ecclésiaste 1, 17-18, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. » Et simplement, il est en train de dire, lorsqu'on considère vraiment ce qui se passe dans le monde et qu'on comprend bien les enjeux, les réalités, comment ça se termine, la souffrance, tout ça, il y a beaucoup de douleur à réfléchir, à comprendre le sens de toutes ces choses-là, parce qu'il est souvent bien triste et bien difficile. Vous avez juste à penser au sort de nombreux peuples sur la terre qui semblent être dans des conditions où le mal s'attache à eux, la souffrance, la douleur, pendant des siècles et des siècles, d'accord? Et réfléchir à ça, c'est extrêmement troublant. Tu te dis, mais quel espoir est-ce qu'on a? Puis on essaie de renverser les choses, mais on voit que c'est très, très, très difficile. Plus tard, il va décider d'expérimenter les plaisirs de la vie. Alors, il se dit, si on n'a pas de perspective éternelle, vivons au moins pour le moment présent pour en tirer le maximum. Et il y a un certain sens à ça. C'est pas un sens complet, mais il y a un certain sens à ça. Alors, Ecclésiaste 2, 10, il dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Alors, il a décidé de jouir au maximum de la vie, d'essayer de se contenter, de s'assouvir dans tous les désirs qu'il pouvait vivre. Si effectivement c'est Salomon qui a écrit ça, bien on sait qu'il a goûté à peu près tout ce qu'un homme peut goûter, d'accord? Parce qu'il était immensément riche, et en plus de ça, il s'est éloigné de l'Éternel, donc il est allé vers d'autres des plaisirs même, je dirais, vicieux. Et donc, il a essayé de jouir de la vie, si on peut dire, dans tous les sens du terme, le plus possible. Et il a eu l'opportunité même de le faire, et il en a profité. Mais même ça, ça va produire en lui, à la fin de tout ça, ça va produire en lui le sentiment qu'il n'est pas rassasié. Et vous connaissez probablement des gens qui ont la possibilité de jouir de tout, parce qu'ils sont riches et ils sont pas nécessairement heureux. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était très proche de nous, très, très riche, d'accord? Très, très riche. Quelquefois millionnaire, si on est bien capable de comprendre. Mais cette dame-là, je l'ai déjà mentionné à quelques reprises ici à l'église, elle habitait aux États-Unis, et dans le temps, à chaque fois qu'il y avait un gros lot à la loto, elle téléphonait à ma mère pour que maman y achète ses billets, d'accord? Parce que ça y en prenait un petit peu plus. Et cette dame-là a terminé sa vie dans une profonde dépression en s'enlevant la vie. Ça, c'est la fin de sa vie. Très, très riche, d'accord? Elle a vécu dans l'opulence toute sa vie, dans le confort toute sa vie. Elle a fait toutes les croisières qu'on rêverait de faire pour explorer les différents pays sur la Terre. Elle les a toutes faites, ça. Pourtant, la fin de sa vie est extrêmement pathétique, d'accord? Alors, une fois que tu as goûté à tout ça, si c'est juste cette poursuite-là là, qui donne le sens à ta vie, bien, tu vas arriver à la même conclusion que l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et probablement que vous connaissez des riches semblables qui ont pas trouvé qu'ils ont été rassasiés dans cette poursuite-là. Nous voyons qu'il ne s'est rien refusé, qu'il a recherché à voir si dans toutes les facettes de la vie, l'homme peut trouver un sens à celle-ci. Quelle est sa conclusion? Ecclésiaste 2, 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonheur à trouver là profond. Est-ce qu'il a réussi à trouver un sens à sa vie? Non. Sa conclusion, c'est que la vie ne vaut rien si on s'arrête là. La vie est poursuite du vent. Le chapitre 2 se termine, par contre, avec une note sur une note différente. Au verset 23, l'auteur regardait la vie à travers les lunettes de l'homme naturel qui recherche un sens à la vie. Dans les versets 24-26, il se rappelle quelque chose qui nous donne un indice important concernant l'endroit où on peut trouver un sens à la vie. Alors là, on voit Dieu qui va commencer à apparaître. Je ne sais pas, Louis, si c'est possible d'allumer les spots ici. J'ai l'impression que les gens vont voir un petit peu mieux en avant. Ecclésiaste 2, 24-26. « Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » Alors, vous voyez, il est en train de dire, « Oh, attends un peu, il y a Dieu qui est là, et si j'ai la possibilité de jouir de mes biens, c'est parce que Dieu a décidé de m'en bénir. » Puis en même temps, il est en train de constater des injustices quand même sociales profondes là, qui sont en train d'apparaître dans son discours. Mais on voit Dieu qui apparaît quand même et la conclusion qu'il va tirer à la fin de dire « Jouis de tous tes biens en pensant à ton Créateur » commence à apparaître ici dans le texte, d'accord? En fait, il existe un Créateur qui est souverain sur les choses de la vie. L'auteur réalise que si l'homme peut jouir de la vie, c'est que cela lui vient de Dieu. Donc, il y a un sens à cette vie. Nous pouvons le trouver auprès de celui qui est à l'origine de la vie, car ce Dieu ne fait rien en vain. Et il ne fait rien pour rien. Il existe donc un sens à tout et nous devons le trouver en lui. On est en train d'ouvrir cette piste-là. Maintenant, je vais accélérer un petit peu le survol. Alors, le chapitre 3 souligne le fait que le temps passe, soumet toutes choses, les hommes comme les bêtes, exactement au même destin. On va lire quand même Ecclésiaste 3, 18 à 20. « J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. » Une des choses que je dois mentionner par rapport à l'Ancien Testament, c'est que la perspective de l'éternité est présente, mais pas développée comme dans le Nouveau Testament. D'accord? Elle est présente dans ce livre-là même, parce que l'Ecclésiaste va parler du juge devant qui on va comparaître. Dieu va juger les hommes. Et donc, il y a déjà cette perspective d'éternité qui est présente. Mais elle n'est pas développée comme dans le Nouveau Testament. C'est vraiment dans le Nouveau Testament qu'on arrive avec un très fort accent sur cette espérance dans la vie éternelle. D'accord? Alors, lui considère toute chose, puis il dit, dans le fond, on est comme des bêtes. Parce qu'on vit, on meurt. Comme les animaux. Comme tous les êtres vivants ici-bas. Et il est en train simplement de faire ces observations-là. Chapitre 4 nous parle des réalités, de la réalité des conditions inégales dans ce monde déchu. Encore une fois, l'Ecclésiaste dit, « Bon, OK, moi j'ai été choyé, je suis né dans de bonnes conditions de vie, mais combien de gens sur cette terre ne sont pas nés dans de telles conditions? » Alors, Ecclésiaste 4.1, « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. » Encore une fois, on est dans les livres de sagesse, c'est des énoncés généraux. Oui, même en Israël, il y avait ces lois qui nous ordonnaient d'aller au secours de l'opprimé. D'accord? Dieu est le défenseur. Mais en même temps, on est obligé de conclure, comme le psalmiste dans le psaume 73, que le sort final des méchants, c'est là que va se trouver la justice lorsqu'ils vont se trouver devant Dieu. Ici, dans cette vie, ils ne vont pas tous recevoir la justice, d'accord? Et comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, si on voit de ce temps-ci dans les journaux de nombreux, de nombreux escrocs se faire pincer. Bon, en tout cas, il y en a qui restent à confirmer, mais possiblement. Ben, on se dit, c'est quoi ces 10% qui sont pincés? Il y en a combien qui s'en tirent? Alors donc, c'est, lui-même considère ça, puis il dit, la justice, on la voit pas partout. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, comme je vous dis, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, la perspective de l'éternité n'est pas développée comme dans le Nouveau Testament. C'est une chose à garder à l'esprit. Comme j'ai mentionné au début du cours, je dois toujours lire l'Ecclésiaste en perspective de la fin du livre. Je dois toujours garder à l'esprit la fin du livre. Tout homme va comparaître devant Dieu. Dieu va juger tous les hommes. Et donc, il n'est pas en train de dire que dans une perspective éternelle, l'homme et la bête sont identiques. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire, dans un certain sens, dans notre vie ici-bas, oui, d'accord? On vit, on meurt. Et on va tous vivre et mourir. Et il y en a qui vont vivre dans des conditions pires que bien des animaux. D'accord? Et donc, dans cette perspective-là, on est toujours dans cette perspective de dire, oui, mais ici, là, ici, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment précieux de toujours replacer aussi l'Ecclésiaste dans le contexte de tout le récit biblique. Vous avez les conclusions d'un homme qui vit au milieu d'une humanité qui est déchue. Une humanité qui aspirerait à l'éternité et qui ne la voit pas là, de son vivant. On va passer par la mort. Cette éternité-là n'est pas visible à nos yeux comme Adam et Ève l'avaient. Dans cette perspective-là, il dit, mais ça fait aucun sens. On va mourir comme des bêtes. On meurt comme des bêtes. Tu as un commentaire?
C'est pas une affirmation qu'il est en train de faire. Il pose une question. Et c'est pour ça qu'il faut garder la fin du livre où là, vraiment, il dit, ouais, mais il y en a un jugement, finalement. Puis Dieu va en avoir une justice. Et donc, il jette la lumière sur...
Oui, et la touche que moi j'ajoute à ça, c'est vraiment l'idée que c'est correct qu'on vive une profonde frustration de mourir. Voyez-vous, c'est correct qu'on vive une profonde frustration de la vieillesse devrait, à quelque part, nous frustrer. Parce que, je veux dire, j'espère vivre éternellement. Donc, je le vis, je l'accepte parce que je vis sous le règne de Dieu, je me soumets à Dieu. Mais l'être humain n'a pas été conçu premièrement pour mourir, il a été conçu pour vivre éternellement. Donc, que ce sentiment-là vienne en nous, cette frustration-là, c'est légitime. Après ça, je fais comme l'Ecclésiaste. Je termine avec la sagesse divine. Je m'en vais me placer sous l'autorité de Dieu, en perspective de l'éternité, avec un Créateur qui est derrière tout ça. D'accord? Mais encore une fois, Sartre penserait comme ça, puis lui, il continuerait, il irait jusqu'au bout de son raisonnement. Lorsqu'on échange, hier, j'étais en train de lire des échanges sur le site de Gospel Coalition entre un chrétien et puis un athée. Puis souvent la discussion qu'on va avoir avec les gens qui sont athées, c'est comment est-ce que vous pouvez donner un sens moral à la vie puisque nous ne sommes que de la matière. Sur la base même de la matière, dire que le rat a plus de valeur que moi, admettons, je parle de la bête, un rat a plus de valeur que moi, ben des fois je veux savoir si mon raisonnement se tient, là, puis j'ai pris le temps de lire comme il faut l'argument de l'athée. Puis en fin de compte, ce qui fait que le rat a moins de valeur que moi, hein, c'est la sélection naturelle, c'est que je suis plus fort que lui. D'accord? Et c'est ça qui fait que, moralement, c'est correct que moi j'extermine le rat, parce que ma moralité repose sur ma puissance. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, ils vont pas jusqu'au bout de leur réflexion, là. Parce que moi, je vous dis que la Terre est surpeuplée, puis on a les moyens d'en éliminer une partie, fait qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes. Voyez-vous, ils vont pas jusqu'au terme de leur réflexion. D'accord? Heureusement. Merci Seigneur. OK. Alors, on continue. Chapitre 4 nous parle de réalité, je m'excuse. Le chapitre 4 nous parle de la réalité des conditions inégales dans un monde déchu, on l'a mentionné. Les chapitres 5 à 10, vraiment, je les survole. Ça serait intéressant de les lire parce qu'ils sont précieux. Mais je dois aller vers la conclusion. Les chapitres 5 à 10, je dirais que c'est comme si l'Ecclésiaste est en train d'essayer de nous équiper avec une sagesse générale pour faire face à la vie. Et là, il va aller dans différentes directions. Il ne faut pas lire ce livre-là en se disant, à chaque fois, il est en train de me présenter comme la mauvaise manière de penser si tu es sans Dieu. Il y a énormément de sagesse dans ce livre-là. Et donc, je le lis en disant, OK, là, il me donne la perspective du gars qui est désespéré sans Dieu. Ici, il vient de me redonner quand même un concept de sagesse parce qu'il tient en définitive qu'on marche devant Dieu. D'accord? Alors, les chapitres 5 à 10, c'est beaucoup d'éléments de sagesse générale pour la vie. Maintenant, si je veux bien comprendre le livre, comme on le mentionne depuis le début, je dois me rendre jusqu'au chapitre 12, aller vers la conclusion. Alors, chapitre 12, versets 1 à 4. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Et là, il va parler après ça du vieillissement, tout ça, d'accord? Mais donc, il est en train de dire « C'est bon, Dieu nous a créés pour jouir de la vie, tout ce que Dieu a créé est bon ». Et il n'y a pas de sens beaucoup plus profond à trouver à la vie que de jouir de ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné une épouse, il veut qu'on jouisse ensemble de notre mariage. Dieu m'a donné des enfants, il veut que je jouisse de la famille. On arrive au temps des fêtes, je ne dois pas rester simplement dans l'aigreur que peut m'apporter la vie, je dois apprécier ce que Dieu m'accorde. Moi, je suis là, je suis vivant, Dieu m'a donné la vie, il faut que j'en profite. Et donc ça doit être là constamment. Mais il dit, mais, rappelle-toi par exemple, qu'un jour tu vas paraître devant Dieu. Alors fais tout cela. Constamment, chaque jour, en vivant à la lumière de l'existence de Dieu. Et on arrive à la toute fin, à la conclusion, versets 15 et 16, Ecclésiaste 12, 15 et 16. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il y a donc un Dieu créateur, un Dieu bienfaiteur, et cette vie-là prend son sens dans le fait qu'un jour, on va se présenter devant lui. Nous vivons dans un monde déchu, où il y a une espèce de non-sens continu qui est devant nos yeux. Parce que la mort nous guette, n'est-ce pas? Parce que les grandes aspirations de nos cœurs à faire le bien, à voir le bien, à voir la justice, à voir la miséricorde, sont constamment frustrées par nous-mêmes, par nos propres injustices, par les injustices qui viennent des autres à travers toute la société. Et ça procure une frustration constante. On lit les journaux, puis ouf, il y a des journées, c'est lourd. Moi, j'ai terminé la journée lorsqu'il y a eu ce massacre-là cette semaine. Il y avait eu des mauvaises nouvelles à l'école de mes enfants, une jeune fille qui s'était enlevée la vie cette semaine. Ouf, c'était lourd tout ça, là, t'sais. Et donc, on vit dans ce monde-là constamment. Mais je vis dans ce monde-là en perspective du fait qu'il y a un Créateur qui est là. Il y a un Créateur qui est présent, et un jour, je vais me présenter devant lui. Nous sommes donc appelés à vivre avec sagesse et reconnaissance, jouissant de ce que Dieu a donné et conscient que toutes choses passeront. Cette vie devrait être vécue dans la crainte de Dieu en observant ses commandements. Pourquoi? Parce que Dieu amènera tout être humain en jugement. Personne ne passera à côté de cette réalité. C'est donc la responsabilité de chacun de chercher à connaître Dieu. Maintenant, il faut absolument terminer avec ça. L'Ecclésiaste, c'est pas la fin de la révélation. Et ça, c'est très, très, très important. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, Christ va apporter une nouvelle lumière à cette vérité-là sur laquelle se termine le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste termine avec « marcher dans la crainte de Dieu, savoir qu'un jour on va comparaître devant Dieu ». Et je pense qu'un des éléments qui est frustrant pour un chrétien dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est qu'on ne sent pas un sens de mission. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Lorsque, une fois que Christ est venu, une fois que tu réalises qu'il est venu pour sauver des âmes, une fois qu'il nous a donné un message à annoncer, bien, simplement la perspective de dire « Je vais vivre avec ce que Dieu m'a donné, je vais me contenter puis je vais apprécier tout ce que Dieu m'a donné, mais en même temps, je dois vivre simplement en me disant qu'un jour je vais comparaître devant Dieu sans qu'il y ait un sens profond de mission. » Je pense que c'est un des éléments qui est frustrant pour le chrétien lorsqu'on va lire ça. C'est que Christ est venu nous donner une perspective de l'éternité qui est beaucoup plus grande que celle que l'Ecclésiaste avait. D'accord? Et on ne sent pas ici, dans ce cœur-là, un cœur qui a décidé non seulement que je veux être juste avec les gens autour de moi, certainement que ça, c'est là, c'est-à-dire faire le bien aux pauvres, justement prendre soin des opprimés, tout ça, mais il n'y a pas ce sens de mission. Ce sens de mission-là est très peu présent dans l'ensemble de l'Ancien Testament. D'accord? Et nous vivons à la lumière du Nouveau Testament après la venue de Jésus-Christ. Et ça, ça doit changer nos choses, notre perspective à nous profondément. Parce que ça vient nous donner une mission. Alors, c'est vrai, comme l'Ecclésiaste, je pense que je suis un pèlerin sur la terre. Dans un sens, c'est ça que l'Ecclésiaste dit. D'accord? L'Ecclésiaste dit, je suis un pèlerin sur la terre. Si une journée, Dieu me donne du pain, il faut que je l'apprécie puis que je le mange. Si Dieu, une journée, me donne du vin, je vais le boire puis je vais l'apprécier, le vin qu'il m'a donné. Parce que mes jours sont comptés, je suis un pèlerin. Et un jour, je vais comparaître devant Dieu. La différence majeure qui arrive pour nous, avec la mission que Christ nous a donnée d'aller de faire de toutes les nations des disciples, c'est que nous sommes des pèlerins en mission sur la terre. Et cette dimension-là de mission n'est pas aussi présente. Et pour nous, étant donné que la perspective de l'éternité, ce que Christ nous prépare est beaucoup plus développé, beaucoup plus annoncé. On voit Jésus ressuscité, on se dit « Wow, ça c'est le premier ressuscité, moi je vais avoir un corps comme ça, je vais entrer dans l'éternité, il est allé me préparer une place, c'est pas juste que je vais passer en jugement, c'est qu'il est allé me préparer une place, j'ai hâte d'être dans sa présence. » On lit l'Apocalypse, on voit ce qui nous attend de l'autre côté, on voit qu'il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où on va être libéré de cette frustration-là du temps qui passe. N'est-ce pas? Dans l'éternité, je ne vais pas construire pour perdre. Je vais construire pour construire éternellement. Et donc, il y a une grosse différence. J'ai cette perspective-là qui vient changer les choses, qui me donne une aspiration. Et là, je peux voir ma vie ici en disant, non seulement mes jours sont comptés, je dois bien en jouir, mais mes jours sont comptés, je suis en mission. Et donc, en vivant dans la crainte de Dieu, dans la sagesse, je vais avoir un style de vie qui va incarner cette sagesse-là devant les gens. Je vais jouir de la vie, mais je vais toujours avoir à cœur de leur partager cette sagesse-là qu'on trouve en Jésus-Christ. D'accord? Alors, évidemment, des passages comme Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain », ça donne un parfum qui n'est pas là dans l'Ecclésiaste. L'idée que la mort m'est un gain n'est pas présente dans l'Ecclésiaste. Ce qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, c'est qu'un jour, je vais paraître devant Dieu. Mais d'y voir un gain, non, c'est plutôt une frustration. Je vais perdre tout ce que j'ai construit. D'accord? Mais là, on arrive dans le Nouveau Testament. La révélation est complète. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, comme chrétien, avec l'Ecclésiaste, nous disons, on vit dans un monde déchu, le temps passe. Et tout ce qu'on va construire ici n'a pas beaucoup de portée. C'est pourquoi Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Parce que là, vous êtes en train d'investir dans des trésors célestes et éternels. Ici, le temps passe. Et je sais que je vais me présenter devant Dieu et je sais que j'ai un message extraordinaire à transmettre parce que j'attends le retour de mon Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire là-dessus ou une question? Puis on va terminer avec ça. Veux-tu me le passer? Je vais le lire, juste pour l'enregistrement. 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. C'est l'Ecclésiaste. C'est bon? Alors, je vais juste vous répéter, on est en pause 2 semaines pour ce qui est des cours de 9h à 10h. Et puis ensuite de ça, pendant tout le mois de janvier, on va avoir des temps de prière de 9h à 10h. Alors, la pause continue. Je vais reprendre mon cours début février avec le Cantique des Cantiques. On vous l'annoncera peut-être 2 semaines d'avance de toute façon. D'accord? Et j'ai mentionné au début du cours, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, que j'ai lu les commentaires. Merci pour toutes les évaluations. J'en ai eu peut-être 20, 22. Et on va faire un ajustement. Je vais étirer le cours sur l'Ancien Testament jusqu'à la fin juin. Et je vais faire mon survol du Nouveau Testament seulement en septembre, ce qui va me permettre de prendre un livre par semaine. D'accord? On va terminer ensemble avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, je veux te remercier pour ta sainte parole. Seigneur, ta parole est remplie de sagesse et personnellement, j'ai toujours apprécié ce livre qui parfois me déprimait, mais m'amenait toujours plus vers la sagesse, vers la crainte de ton nom, Seigneur, à considérer le sens de mes jours comme il faut. Et vraiment, je suis reconnaissant, Seigneur, pour cet homme qui tire des conclusions que souvent nous ne voulons pas tirer nous-mêmes. Et je prie, Seigneur, que des gens puissent lire ce livre alors qu'ils ne te connaissent pas. Et que ça les amène à réfléchir pour tirer des conclusions différentes de celles de Sartre. Mais qu'au contraire, ils puissent croire que tu es là et que cette vie prend son sens parce que tu es là, parce que nous paraîtrons devant toi un jour, Seigneur. Qu'ils puissent découvrir Jésus-Christ et avoir une espérance encore bien plus grande que celle de l'Ecclésiaste, à savoir voir Christ mon Sauveur. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.